invité de la rédaction. Pierre Ellenbach.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Gabrielle Goetz, présidente de l'association strasbourgeoise Biodiversité pour tous. L'association fête ses 10 ans cette année. L'association est située aux 5 petites rues d'Austerlitz à Strasbourg. Gabrielle Goetz, bonjour et bienvenue sur Radio Judaïka.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Pour commencer, j'aimerais connaître votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené à devenir présidente de l'association Biodiversité pour tous ?
Alors, de tout temps, j'ai été très sensible aux questions environnementales. Mes grands-parents sont d'origine paysanne. Et quand j'étais petite fille, j'avais le bonheur de passer beaucoup de temps dans leur ferme. Et je pense que c'est de là qu'est venu mon amour de la nature et ma sensibilité aussi à toutes ces questions environnementales actuelles. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que nous avons fondé cette association Biodiversité pour tous ? Eh bien, c'est une rencontre lors d'un forum du développement durable avec une jeune présentatrice suisse qui nous a parlé d'une fondation qui est l'émanation du gouvernement fédéral suisse et qui incite les entreprises situées sur le territoire helvétique à laisser 30% de leurs espaces extérieurs en zone naturelle. Et j'ai trouvé ce concept très pragmatique, très adapté à toutes les contraintes que peuvent rencontrer des sociétés. Et c'est ainsi que nous avons créé Biodiversité pour tous, calqué sur le modèle de nature et économie en Suisse.
Pouvez-vous nous présenter l'association Biodiversité pour tous ? Combien de personnes sont engagées et qui fait appel à vous ?
Alors, nous sommes une petite association, nous sommes une petite dizaine de membres, plus ou moins actifs. Et qui fait appel à nous ? Eh bien, tout le monde. C'est aussi bien des entreprises que des éco-quartiers, d'autres associations, des particuliers, des maisons de retraite, des écoles, des communautés de communes. Voilà, nous travaillons vraiment avec tout le monde.
Quelles sont les différentes actions que vous menez ?
Alors, notre objectif est fondamentalement de préserver et de restaurer la biodiversité ordinaire. Il ne s'agit pas pour nous d'agir pour l'ours polaire ou la panthère des neiges. Non, notre objectif, c'est de tout faire pour que ce qui nous entoure dans notre quotidien, les papillons, les fleurs des champs, les insectes, les abeilles sauvages, que toute cette faune et toute cette flore locale soit préservée et restaurée.
J'ai vu que vous avez mené des actions aussi à l'Euroairport de Balmulhouse.
Oui, nous travaillons depuis pas mal d'années, environ 6 ou 7 ans maintenant, avec l'Euroairport de Balmulhouse. Notre association délivre un label de qualité aux entreprises qui souhaitent se distinguer par leur action pour la biodiversité. Et donc, nous avons labellisé à 2 reprises maintenant l'Euroairport de Balmulhouse. Et cela peut sembler assez surprenant que nous félicitions un tel organisme pour son action pour la biodiversité. Mais un aéroport occupe toujours un territoire extrêmement vaste et une grande partie de ce territoire est laissée sans grande intervention anthropique. Et du coup, c'est vraiment des trésors de biodiversité qui peuvent s'y développer. Et l'Euroairport de Balmulhouse est vraiment un exemple remarquable à ce point de vue-là.
Quels sont les autres endroits que vous avez labellisés ?
Alors, nous travaillons au niveau du territoire national. Nous avons labellisé des forêts Miyawaki mises en place par une start-up qui s'appelle Trees Everywhere. Et donc, nous avons labellisé des sites à Nogent-sur-Oise, à Gravelines, à Lens, à Mulhouse, à Bourset. Enfin, il y a plein de villes à travers le nord de la France que nous avons labellisées. Enfin, des villes, je veux dire des sites plus ou moins étendus, que nous avons labellisés pour les efforts en faveur de la biodiversité.
Pouvez-vous nous expliquer aussi les services que vous proposez, donc l'audit site, les préconisations, la rémunération des espaces et la sensibilisation ?
Oui, alors nous effectuons effectivement un certain nombre de prestations. À commencer par les audits de sites. Nous essayons de faire un bilan de l'état de la biodiversité sur certains sites. Ensuite, suite à ce bilan, nous formulons des préconisations de plantation et de gestion. Alors, nous essayons toujours d'être au plus près des envies, des besoins, des contraintes de nos interlocuteurs. Par exemple, nous avions émis des préconisations de plantation pour le NHC et Dieu sait s'il y avait des contraintes énormes en termes sanitaires, en termes de voilà, il fallait pas qu'il y ait trop d'arbustes pour que les SDF puissent s'y installer. Enfin. Nous adaptons vraiment à toutes sortes de contraintes et pour nous, il nous semble essentiel de commencer la démarche et ensuite, petit à petit, de l'améliorer. L'essentiel, c'est de commencer et ensuite, les gens, spontanément, très souvent, se disent « Ah ben, on peut essayer d'aller plus loin et plus loin et plus loin. » Voilà.
Vous proposez également un formulaire de labellisation. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, cette labellisation est calquée sur le modèle suisse. Alors, il y a un certain nombre de critères à remplir pour bénéficier de ce label, purement associatif, je précise. Alors, il convient qu'il y ait au minimum 30% de l'espace qui soit en zone la plus proche de l'état naturel. Il faut qu'il y ait un maximum de plantes locales, de plantes indigènes. Il faut qu'il y ait des abris à faune, parce que très souvent, on ne se rend pas compte, mais dans nos constructions actuelles, il y a très peu d'espace, très peu d'endroits où les abeilles abeilles sauvages peuvent nidifier. Pareil pour les oiseaux, donc cette installation d'abris à faune est très importante. Ensuite, il faut que les matériaux utilisés pour, par exemple, les tuteurs, ce genre de choses, aient un minimum d'impact négatif sur la planète. Il faut que les voies de circulation soient autant que possible en matériaux perméables. Et il faut aussi impérativement laisser tomber tous les pesticides, herbicides, fongicides, enfin tout ce qui est toxique à divers degrés pour la faune et la flore. Et enfin, il faut que la gestion de l'endroit respecte tous ces critères que je viens d'énumérer.
Et quel est le coût de ce label ?
Alors, le coût de ce label est extrêmement variable. Nous pouvons tout aussi bien l'attribuer gratuitement à certains organismes. Par exemple, nous l'avons attribué gratuitement à un EHPAD, parce que voilà, les fonds ne sont pas forcément là. Et il fallait malgré tout mettre en avant les efforts menés par cet EHPAD. Et pour ce qui est des entreprises, en général, c'est fonction du nombre de salariés.
Et combien de personnes ou d'organismes ont déjà adhéré à cette démarche ?
Je n'ai pas le chiffre exact en tête. On doit s'approcher de quelques petites dizaines, mais pas plus.
C'est à chaque fois régional, c'est aussi national ?
Oui, nous travaillons au niveau de la France métropolitaine.
Est-ce qu'il y a aussi au niveau international, peut-être des pays comme la Belgique, frontaliers comme Suisse ou...
Le concept de nature-économie qui a été fondé par les Suisses a été copié, entre guillemets, par des Néerlandais, des Allemands et des Autrichiens et également, il me semble, des Japonais. Maintenant, j'avais déjà proposé aux Suisses de rassembler tous ces différents organismes, mais bon, c'est des Suisses et ils préfèrent, ils tiennent à leur neutralité et à leur indépendance.
Votre association fête ses 10 ans cette année. Avez-vous prévu d'organiser des événements?
Nous sommes en train d'y réfléchir parce que c'est sûr qu'il faut marquer le coup et que entre 2013 et 2023, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru parce que surtout au niveau sociétal, parce que la biodiversité commence quand même à être perçue comme un élément important pour la planète, hein. La biodiversité et le changement climatique sont les deux faces d'une même pièce et il faut vraiment que les gens et que la société en prennent conscience.
Comment peut-on agir pour la biodiversité et quels seraient les gestes à adopter?
Alors, ils sont multiples, tout dépend du contexte, mais je donnerai peut-être juste quelques exemples. Si vous habitez en ville, vous avez un rebord de fenêtre ou un petit balcon, eh ben, au lieu de mettre en place des géraniums, des pétunias, des fleurs horticoles, essayez d'opter plutôt pour des marguerites, des scabieuses, des plantes qui soient au moins mellifères ou si possible indigènes et au moins elles fourniront de quoi nourrir les oiseaux. Si vous décidez de planter un arbuste dans un pot, ben à ce moment-là, privilégiez plutôt une viorne lantane ou une viorne aubier. Ou des cornouillers mâles, ou en tout cas des plantes locales et endémiques qui seront à même de fournir des baies pour les oiseaux et du nectar pour nos insectes pollinisateurs.
Quelles sont les conséquences de la dégradation de la biodiversité aujourd'hui?
Ah, les conséquences sont énormes. Si l'un des moyens de lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'utilisation de nos écosystèmes pour capter un maximum de carbone. Donc, si nous avons des écosystèmes en bon état, cela nous permettra d'utiliser la nature comme moyen de lutte contre ce réchauffement climatique. Et on oublie trop souvent les innombrables services que nous rendent tous ces écosystèmes. Le fait de retenir la terre, le fait de filtrer l'eau, le fait de produire de l'oxygène, le fait de nous apporter de la fraîcheur, le fait de nous apporter de la beauté, tout ça, c'est des éléments qui sont là, et on ne se rend même pas compte de tous ces bienfaits de la nature. Et il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à tout ce qu'on risque de perdre.
Si on a envie de faire un don pour votre association, où peut-on le faire?
Eh bien, il vous suffit d'aller sur le site Biodiversité pour tous et vous trouverez tout ce qu'il faut.
Merci Gabrielle Götz et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Biodiversité pour tous.
Merci pour votre accueil.
L'invité de la rédaction, Pierre Ellenbach.